Bereshit, Torah pour dimanche, traduction de la Torah du jour incluant des commentaires de Rashi. Titre, la création du monde, jour 1, la lumière. Introduction. Pour l'ensemble des 5 jours du dimanche à jeudi, les auteurs du Chok l'Israël ont prévu la lecture et l'étude des 26 premiers versets de la paracha de la semaine, soit 6 pour le premier, 4 pour le deuxième, 5 pour le troisième, 6 pour le quatrième et 5 pour le cinquième. Début du texte. Au commencement, Dieu, Elohim, créa le ciel et la terre. Or, la terre n'était que tohu et bohu, c'est-à-dire désolation et confusion. Des ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il fut soir, il fut matin, jour 1. On se serait attendu à trouver ici premier jour, comme on trouve pour les jours suivants, deuxième jour, troisième jour, etc. Et non, jour 1. S'il n'en est pas ainsi, c'est, précise Rashi, pour indiquer que Dieu était alors un et unique dans son univers. Dieu dit, que soit un espace au milieu des eaux, et qu'il forme une barrière entre les unes et les autres. Commentaire de Rashi sur le verset 1.1, accompagné d'explications. On constate que le terme utilisé ici est « Elohim créa » et non « Hachem créa ». Pour Rashi, l'intention première était de créer le monde selon le principe de la justice, mais ayant vu que le monde ne pourrait subsister, il a donné préséance à la miséricorde et l'a associé à la justice. Dans son livre « Les secrets de la création », le Rav Shaul David Boschko explique « Une brève introduction est nécessaire pour bien comprendre les propos de Rashi et éviter de se tromper quant à son intention. » La notion de changement ne s'applique en aucune manière à Dieu. Il ne change pas d'avis, il n'éprouve pas de regrets et ne subit aucune influence. Il a tout créé, le temps y compris, et les notions d'avant et d'après n'ont aucun sens par rapport à lui. De plus, il est un et unique, et des catégories telles que la justice ou la grâce ne constituent pas en lui des souverainetés distinctes et tout en lui est absolument un. S'il semble que nos sages disent des choses qui contrediraient ce principe, c'est parce qu'il parle d'une manière que l'homme peut comprendre, apprendre et intérioriser. La Torah a parlé le langage des hommes. Venons-en maintenant aux commentaires de Rashi. Le principe de la justice implique que le monde soit créé de telle sorte qu'il ne puisse exister que s'il mérite la vie qu'il reçoit du Créateur. Par contre, la miséricorde implique pour la créature la possibilité d'exister alors qu'elle en est encore indigne. L'intention première était de créer le monde selon le principe de la justice. Cela signifie que la finalité de la création est d'être finalement digne de la vie que le Créateur lui offre. Le premier verset dévoile donc la vocation ultime de la création. Mais avant que le monde ne parvienne à son aboutissement et puisse exister par son mérite propre, il doit être dirigé avec miséricorde. Sinon, il ne pourrait pas subsister et ne pourrait donc jamais atteindre la finalité qui lui est assignée. Il n'y a aucun changement, ni dans le geste de la création, ni dans l'intention du Créateur. Il s'agit de l'exposer d'une finalité et des moyens de l'atteindre. Autre commentaire portant sur le verset 1.1. Et Dieu créa le ciel et la terre. Dans quel ordre? Le ciel et puis la terre, ou l'inverse? L'école de Shammai et l'école de Hillel discutent sur le sujet. Voir traité Chagiga, page 12. Pour l'école de Shammai, le ciel fut d'abord créé comme l'indique le verset 1.1, et cela est conforme à leur vision du monde, primauté au ciel, au monde des idées. Pour l'école de Hillel, qui résume la Torah au verset « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel ton Dieu. » C'est d'abord la terre qui fut créée, comme l'indique le verset 2.4, à l'époque où l'Éternel Dieu fit une terre et un ciel. L'école de Hillel pose une question. D'après vous, un homme construit-il d'abord le toit et ensuite la maison? Et en appui, elle cite le verset Amos 9.6. L'école de Shammai répond. D'après vous, l'homme fabrique-t-il d'abord le marchepied et ensuite la chaise? Et en appui, elle cite Yeshaya, Isaïe 66.1. Les sages concluent que le ciel et la terre furent créés en même temps en suivant le verset Yeshaya, Isaïe 48.13. Commentaire extrait de Rashi portant sur le verset 1.2. La phrase « Le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux » signifie que le trône de la majesté divine se tenait dans les airs et planait à la surface des eaux, par la seule force du souffle, de la parole du Saint béni soit-il et par son ordre. Telle une colombe qui plane au-dessus de son nid pour le protéger. Commentaire, extrait du Midrash Rabbah portant sur le verset 1.3. Le mot « lumière » apparaît à 5 reprises dans ce passage, ce qui correspond aux 5 livres de la Torah qui abritent sur terre le rayonnement de la lumière originelle. Commentaire extrait de Rashi portant sur le verset 1.4. Si Hachem a séparé cette lumière originelle, c'est qu'ayant vu que les méchants ne mériteraient pas d'en profiter, il a mis en réserve à l'usage des justes pour les temps à venir. Dans son livre « Les secrets de la création », le Rav Shaul David Boshko nous apporte un éclaircissement. Si la lumière est bonne, pourquoi faudrait-il la séparer du reste? Au contraire, que la bonne lumière éclaire le monde et qu'il s'emplisse tout entier de sa clarté. Rashi explique qu'il ne s'agit pas ici d'une lumière physique, mais d'une lumière spirituelle. L'homme doit se rendre digne d'une telle lumière et se rapprocher de Hachem. C'est le but de la création, que l'homme progresse et s'élève par son effort. Si la lumière spirituelle était offerte gratuitement, l'homme n'aurait aucune raison de chercher à s'améliorer. Les méchants n'auront pas droit à cette bonne lumière et erreront toute leur vie dans les ténèbres. Nevi'im, prophète, pour dimanche. Livre de Yeshaya, Isaïe. Traduction incluant des commentaires des Metsudot. Titre: Quand Hachem promet son soutien au Mashiach. Introduction. Pour les jours du dimanche à jeudi, le Chok l'Israël prévoit la lecture des 26 premiers versets de la Haftara de la semaine selon la ventilation 6, 4, 5, 6, 5. Contexte. Yeshaya est le premier des trois grands prophètes d'Israël avec Irmiya et Yechezkel. La Gemara Sota 10b nous apprend qu'il est de la tribu de Yehuda, Juda. La première partie de sa vie publique commence par l'appel que lui lance Hachem et auquel il répond « Me voici, envoie-moi » chapitre 6-8. Il a vécu pendant les règnes de Uzia, Yotam, Achaz et Hizkia, Ézéchias. Sous le règne de Hizkia, fils et successeur de Achaz, Sanharib, roi d'Assyrie, envahit le royaume de Yehuda et met le siège devant Jérusalem. Mais, comme Yeshaya l'avait annoncé, l'impossible se réalise. Une épidémie décime les armées de Sanharib et la ville est sauvée. Dans son livre, il critique sévèrement le comportement du peuple, notamment sur les pratiques de l'idolâtrie, et prophétise la fin du royaume d'Israël et la destruction du premier temple. Dans ce passage, Yeshaya évoque les temps messianiques et la figure du Mashiach. Début du texte. Ainsi parle le Tout-Puissant, l'Éternel qui a créé les cieux et les a déployés à la manière d'une tente, qui a étalé la terre avec ses productions, qui donne une âme aux hommes qui l'habitent et un souffle vital à ceux qui la foulent, c'est-à-dire à toutes les autres créatures vivantes. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé toi, le Mashiach, en toute justice, et je te tiens par la main pour t'aider à réussir dans toutes tes entreprises. Je te protège et te façonne. Je te donne la force de faire comprendre à mon peuple qu'il se doit d'être fidèle à mon alliance et d'être une lumière pour les nations. Je te donne la force de défier les yeux frappés de cécité, afin que tous me reconnaissent pour Dieu, de tirer le captif, à savoir Israël, de la prison babylonienne dans laquelle il est enfermé, et de tirer du cachot ceux qui vivent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est mon nom, il m'appartient en propre, au contraire des noms des idoles qui ne leur sont pas spécifiques. Je ne cède ma majesté à aucune autre idole, et décide désormais de juger avec rigueur les peuples idolâtres qui, au lieu de reconnaître ma majesté, reconnaissent celle des idoles qu'ils servent, ni ne cèdent ma louange à des idoles sculptées. Les prophéties anciennes concernant Sanharib, annonçant que serait déjoué son projet de conquérir le royaume de Juda à l'époque du roi Hizkia, voilà, elles se sont accomplies. Et les nouvelles concernant la rédemption, je les annonce, avant même qu'elles ne germent et commencent à se réaliser. Je vous les fais connaître. Chantez à l'Éternel un chant nouveau, que sa louange se fasse entendre jusqu'à l'extrémité de la terre. Voyageurs de la mer, être qu'il a peuplé, il avec vos habitants, vous tous, vous entendrez sa louange, car vous reconnaîtrez Hachem, le Créateur. Commentaire, extrait du Malbim, portant sur le verset 42.5. L'univers est constitué de deux composants contraires, les cieux, qui renvoient à la spiritualité, et la terre, qui renvoie à la matérialité. C'est pourquoi Hachem, afin de démontrer qu'il en est l'unique Créateur, a créé les hommes, constitué d'une âme d'essence spirituelle et d'un corps d'essence matériel. Commentaire extrait du Malbim, portant sur le verset 42.9. L'expérience ayant prouvé la véracité de ces dires, les anciennes prophéties s'étant accomplies, le prophète n'a plus besoin de les détailler en s'appuyant sur un début de réalisation des nouvelles. Non, avant même qu'elles ne germent, je vous les fais connaître. Et vous pouvez être assuré qu'elles se réaliseront tout comme les anciennes se sont réalisées. Commentaire extrait du Malbim portant sur le verset 42.10. Les miracles que les prophéties anciennes avaient annoncés avaient commencé à se produire, par exemple en Égypte. Et ce n'est que dans un second temps que leur rumeur avait fini par se répandre dans le monde tout entier, du centre vers la périphérie en quelque sorte. A l'inverse, les miracles qui se produiront lors de la rédemption seront d'emblée connus de l'extrémité de la terre, et ce n'est que dans un second temps que leur rumeur se répandra vers la mer, les îles et leurs habitants, cette fois de la périphérie vers le centre. Ketuvim, hagiographe pour dimanche. Livre de Michelet, Proverbes. Traduction incluant des commentaires des Metsudot. Titre: De l'intérêt des proverbes du roi Salomon. Introduction. Pour les jours du dimanche à jeudi, le Chok l'Israël prévoit la lecture des 26 premiers versets des Ketuvim selon la ventilation 6, 4, 5, 6, 5. Contexte. Au début du livre de Michelet, le roi Shlomo, Salomon, s'adresse à son fils et fait parler la sagesse pour qu'elle puisse le mettre en garde contre la folie. La totalité de ce livre est un incessant plaidoyer pour démontrer la supériorité de la première sur la seconde. Les exemples se succèdent pour le convaincre de se soustraire au mal et de faire le bien. L'opposition est constante entre deux routes, celle des criminels et celle des justes, et dans un monde si contrasté, il n'est pas indifférent de choisir de se situer dans la lumière de Hachem ou dans la nuit du criminel. Début du texte. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, dont la sagesse puise à trois sources, l'intelligence dont Dieu l'a pourvu, l'enseignement de son père et son expérience de roi. Grâce à eux, on apprend à connaître la sagesse et la morale, à comprendre les paroles intelligentes, à acquérir les leçons du bon sens, la justice dans nos relations avec Dieu et la droiture dans nos relations avec autrui. Il donne de la sagacité aux sots, aux jeunes sans expérience qui jusqu'à présent a agi sans réfléchir, science et réflexion. En les entendant, le sage lui aussi enrichira son savoir, car la sagesse ne connaît pas de limites et l'homme avisé acquérera le sens de la nuance. On saisira mieux les paraboles et ce qu'elles signifient, les paroles des sages expliquant les commandements de la Torah et les énigmes qu'elles renferment. Commentaire, extrait du Maskil Le'Etan, portant sur le verset 1.4. En hébreu, le mot sot, petit, possède la même valeur numérique que le mot intègre, tamim, à savoir 490. Ceci pour indiquer qu'il est des situations dans lesquelles se conduire avec intégrité et droiture relève de la sottise, par exemple lorsque nous avons affaire à un escroc ou à un imposteur. Commentaire portant sur le verset 1.5. C'est parce que la sagesse de la Torah est illimitée que le sage lui-même est appelé à enrichir son savoir. C'est à cette idée que renvoie le fait que, dans les textes, lorsqu'on veut parler d'un sage, on le nomme « disciple de sage », comme pour indiquer qu'il n'est pas de sage authentique qui ne demeure, sa vie durant, un élève. Autre commentaire portant sur le verset 1.5, inspiré du Hagra des Kala. Si acquérir le sens de la nuance est si important, c'est parce qu'après que Adam ait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ceux-ci se sont mélangés et intimement intriqués l'un dans l'autre, au point que la différence qui les sépare est parfois minuscule. Par conséquent, repérer cette différence requiert le sens de la nuance, sans lequel nous pourrions aisément les confondre en jugeant telle chose bonne alors qu'elle est mauvaise et vice-versa. Mishnah pour dimanche, traité Brachot, chapitre 1. Première partie, introduction et liste des questions abordées. Titre: quand et comment réciter le schéma. Introduction. Petit a, positionnement du traité Berachot. La Mishnah comprend dans son ensemble 63 traités, 525 chapitres et 4192 Mishnayot répartis en 6 groupes appelés Sedarim. Les auteurs du Chok l'Israël les ont répartis entre le dimanche et le vendredi de chaque semaine, à raison d'un Seder par jour de la semaine. Ainsi, les chapitres du dimanche ont été choisis dans le Seder Zeraim, semence, qui est le premier des six. Il comprend 75 chapitres et 655 Mishnayot. Il traite des bénédictions et des prières quotidiennes, ainsi que les lois relatives à l'agriculture et aux prélèvements agricoles. Le traité Berachot est le premier des 11 de ce Seder. Ces 57 Mishnayot, répartis en 9 chapitres, abordent principalement les lois relatives à la lecture du schéma, de la Hamida, des bénédictions sur la nourriture, à la récitation des formules de gratitude après le repas, Birkat Hamazon, au Kiddush et à la Havdala. Les bénédictions à formuler dans des circonstances particulières, telles que par exemple la manifestation de la foudre ou du tonnerre, y sont également traitées. Chaque dimanche, nous aborderons un chapitre du traité Berachot, et ce jusqu'à la parashat Vayeshev. À partir de la parashat Miketz, nous passerons au traité suivant, c'est-à-dire PA. Le premier chapitre du traité Berachot concerne la lecture du schéma. Nous allons, avant d'aborder ces cinq Mishnayot, rappeler les versets de la Torah qui s'y rattachent, puis présenter la liste des questions qui y sont traitées. Au verset Deutéronome 6-7, le texte porte « Tu prononceras ces paroles dans ta maison ou en voyage, en te couchant et en te levant. » De ce verset, les maîtres déduisent que c'est un devoir de réciter le schéma deux fois par jour, le soir, à l'heure de notre coucher, et le matin, à l'heure de notre lever. Les questions abordées dans le chapitre 1. Première Mishnah. À partir de quelle heure sommes-nous autorisés à lire le schéma du soir? Et jusqu'à quand? Deuxième Mishnah. À partir de quelle heure sommes-nous autorisés à lire le schéma du matin? Et jusqu'à quand? Troisième Mishnah. Dans quelle position cette lecture est-elle autorisée? Debout, assise, couchée? Quatrième Mishnah. Quelles sont les bénédictions qui encadrent la lecture du schéma? Cinquième Mishnah. Pourquoi le commandement des tzitzit, frange rituelle, alors qu'il n'est pas en vigueur durant la nuit, le passage de la Torah le concernant est-il intégré à la lecture du schéma du soir? Deuxième partie. Exposé succinct inspiré du commentaire du Kehati. Première Mishnah. À partir de quelle heure sommes-nous autorisés à lire le schéma du soir afin de nous acquitter de ce commandement? La Mishnah nous donne une réponse indirecte afin de susciter notre questionnement et c'est la Gemara qui nous apprendra que c'est à partir de la sortie des étoiles. Quant à l'heure limite autorisée pour cette lecture, la Mishnah donne trois avis. Celui de Rabbi Eliezer, qui fixe la limite à la fin du premier tiers de la nuit. Celui de certains sages, qui la repousse jusqu'à la fin de la première moitié de la nuit. Et enfin, celui de Rabban Gamliel, qui autorise la lecture jusqu'au lever du jour. En finale, les sages de la Mishnah fixent la limite à la fin de la première moitié de la nuit, mais autorisent de repousser cette limite, comme le suggère Rabban Gamliel, mais uniquement en cas de force majeure. Gemara pour dimanche, résumé du traité Berachot, page 12b. Titre, les malheurs les plus récents d'Israël lui font oublier les plus anciens. Introduction. Sauf dans certains cas, en particulier le vendredi, les auteurs du Chok l'Israël ont choisi pour chaque jour des textes de la Gemara extraits du même traité que celui de la Mishnah du jour. Début du texte. Benzoma demanda au maître. Comment pouvez-vous affirmer que nous ferons encore mention de la sortie d'Égypte au temps messianique, alors que le prophète Yirmiya semble affirmer le contraire comme l'indique le verset du chapitre 23 reproduit ci-après. En vérité, des jours viendront, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus « Vive l'Éternel qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte », mais « Vive l'Éternel qui a fait monter, qui a ramené les descendants de la maison d'Israël du pays du Nord et de toutes les contrées où je les avais relégués. » Les maîtres lui répondirent. Ce verset ne signifie nullement que le souvenir de la sortie d'Égypte sera alors totalement effacé, mais simplement qu'il passera au second plan, derrière celui des exils qui ont suivi. La preuve en est, poursuit la Gemara, que lorsque le texte porte au chapitre 35, verset 10 de Bereshit, Dieu lui dit « Ton nom désormais ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. » Cela ne suppose nullement l'abandon définitif du nom de Jacob, mais simplement que celui-ci passera au second plan, derrière le nom Israël. C'est dans un sens identique, ajoute la Gemara, que s'exprime le texte lorsqu'il dit au chapitre 43, verset 18 de Yeshaya « Ne rappelez plus les événements passés, que ceux que vous avez connus lors de vos exils successifs, ne contemplez pas les temps antiques, c'est-à-dire ceux de la sortie d'Égypte. » Il apparaît donc qu'au contraire des autres exils qui seront totalement oubliés, la sortie d'Égypte ne le sera pas entièrement. À quoi la chose ressemble? À un homme qui, en chemin, croise la route d'un loup et en réchappe. Il ne parle plus alors que de ce loup, jusqu'à ce que sa route croise celle d'un lion et en réchappe. Il ne parle plus alors que de ce lion, jusqu'à ce que sa route croise celle d'un serpent et en réchappe. Oubliant alors et le loup et le lion, il ne parle plus alors que de ce serpent. Ainsi, les malheurs les plus récents d'Israël lui font oublier les plus anciens. Zohar pour dimanche, section introduction, page 4b. Quelques idées extraites du texte. Titre. Du devoir d'innover dans l'étude de la Torah. Première idée. Combien l'homme doit-il se fatiguer jour et nuit à étudier la Torah? car le saint béni soit-il prête une oreille attentive à ce qu'il étudie de la sorte, et à partir de chaque signification nouvelle que l'homme y découvre, il crée un ciel nouveau. Deuxième idée. Lorsqu'une nouvelle parole de Torah affleure à la bouche d'un homme, elle monte se présenter devant le saint béni soit-il. Celui-ci la prend, l'embrasse et la ceint de 70 couronnes ciselées. Troisième idée. C'est grâce à ces nouvelles paroles de Torah que le saint béni soit-il renouvelle en permanence les cieux et la terre. Ce dont atteste le verset Yeshaya 66:22. Les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je fais. Ce verset ne porte pas « que j'ai fait », mais « que je fais » au présent, car il les façonne sans cesse à partir des nouvelles paroles et des secrets de la Torah. Halakha pour dimanche. Shulchan Aruch Orachaim. Traduction des extraits des chapitres 1, 24, 25, 28, 38, 44. Titre. Quelques règles au sujet des tzitzit et des tefilin. Introduction. Pour les 4 premières parashiot, c'est-à-dire de Bereshit jusqu'à Vayera, le Rav Frida, auteur de la partie Halakha du Chok l'Israël, a tiré essentiellement du Shulchan Aruch les textes de la Halakha. Pour toutes les autres parashiot, son choix s'est porté sur le Mishneh Torah de Rambam, où il a puisé dans Ilchot Yesodé HaTorah, Ilchot Deot, Ilchot Talmud Torah, Ilchot Avodazara, Ilchot Teshuvah, Ilchot Kiryat Shema, Ilchot Tefila, Ilchot Berachot, Ilchot Shabbat, Ilchot Ishut, Ilchot Isurebia, Ilchot Maase Korbanot. Début des Halachot. Ilchot Ashkamat Aboka. 1.1. L'homme doit être fort comme un lion pour se lever de bon matin et servir son Créateur, que ce soit lui qui éveille l'aube et non l'inverse. 1.3. Tout homme craignant Hachem ressentira de la peine, voire de la souffrance au sujet de la destruction du temple. 1.4. Mieux vaut peu de supplications récitées avec ferveur que beaucoup sans ferveur. Ilchot Tzitzit, frange. 24.3. Il est bien de regarder les tzitzit, frange, du talit lorsque l'on s'en enveloppe. 24.6. Sévère est la sanction prévue pour celui qui néglige le commandement des tzitzit, alors que celui qui l'observe avec scrupule méritera de contempler la face de la présence de Hachem. 25.4. On veillera à être revêtu des tefilin, phylactères, au moment de la récitation du schéma et de la Hamida, la prière des 18 bénédictions. Ilchot tefilin, phylactères. 28.1. On veillera à palper les tefilines tout le temps qu'on les a sur soi, afin que la pensée n'en vienne pas à s'en détourner complètement. On palpera d'abord celle de la main, puis celle de la tête. Au moment où on dit « et tu les attacheras en signe sur ta main », on touchera celle de la main, c'est-à-dire du bras. D'autre part, au moment où on dit « et elles seront un ornement entre tes yeux », on touchera celle de la tête et on l'embrassera, c'est-à-dire qu'on donnera un baiser au bout des doigts qui ont touché les tefilines. 28.2. Quand on enlèvera les téphilines, l'on commencera par celle de la tête, car il est écrit « elles seront un ornement entre tes yeux » au pluriel, Deutéronome 6.8. D'où l'on déduit que tout le temps où l'une est entre tes yeux, les téphilines en place doivent être au nombre de 2. On enlèvera celle de la tête debout, on la rangera dans son boîtier, et l'on placera ensuite celle de main au-dessus d'elle, afin que lorsqu'on les réutilisera le lendemain, ce soit celle de la main que l'on touche en premier. 28.3. Les sages ont l'usage d'embrasser les téphilines lorsqu'ils les mettent et lorsqu'ils les enlèvent. 38.4. On veillera, lorsqu'on a les téphilines sur soi, à n'être traversé par aucune pensée licencieuse. 44.1. Il est interdit de dormir, serait-ce un court moment, avec les téphilines sur soi. Moussard pour dimanche. Traduction allégée d'un passage de Margarita de Rabbi Meir. Titre. Des périls auxquels nous échappons en ne fautant pas. Introduction. Le Rav Frida, auteur du Chok l'Israël, pour la partie Moussard, a extrait les textes du Moussard pour chaque jour à partir des ouvrages suivants. Margarita de Rabbi Meir, Sefer Yashar de Rabbi Zerachia, Sefer Shaare Kedusha, Sefer Hasidim, Rav Saadia Gaon, Megillat Setarin de Rav Nissim Gaon, Sefer Haredim, Sefer Arokeach, Sefer Tzedal Adarech, Sefer Tiferet HaKodesh, Sefer Seder Hayom, Sefer Devarim Shibakdusha, Rambam, Tumat Sarat. Le Saint béni soit-il dit à Israël, ni les épreuves, ni les réprimandes, ni les mises en garde, ni les malédictions pas plus que la crainte du jugement et de la Géhenne, et moins encore le fait que mon nom soit profané par votre faute, ne vous ont poussé à amender votre conduite. Mais sachez-le, quiconque demeure indifférent à tout cela encourt les pires dangers. Après nous avoir avertis de la certitude qu'on aura des comptes à rendre dans le monde à venir, le texte énonce, pour ce monde-ci, toute une série de punitions que pourrait subir le fauteur indifférent. La nature de ces punitions est rapport direct avec la nature des fautes. Ceci peut être pour provoquer un réveil du fauteur et un sursaut salutaire chez ceux qui n'ont pas encore fauté. Nous avons relevé dans le texte ces quelques exemples. A. Celui qui faute avec sa bouche ne trouvera personne pour l'écouter. B. Celui qui faute par la pensée perdra l'éclat de son visage. C. S'il faute en donnant de mauvais conseils à autrui, ses moyens de subsistance se trouveront diminués à l'excès. Le texte conclut que Hachem, dans son infinie miséricorde, nous donne le mérite de revenir à lui et de n'agir que dans l'intention de le satisfaire.